E-Radio, l'invité de la rédaction, Anna Battistella.
30 ans après les débuts du conflit serbo-bosniaque, nous accueillons dans notre studio Anne-Marie Giffot-Levasseur, membre de l'Assemblée européenne des citoyens et coordinatrice du projet Sarajevo, et Edine Mezenovic, membre de l'association franco-bosnienne et survécu au conflit en Bosnie-Herzégovine. Bonjour Anne-Marie, bonjour Edine.
Bonjour.
Anne-Marie. Comment est né le projet Sarajevo?
Alors le projet s'appelait exactement « Il y a 30 ans, le siège de Sarajevo et aujourd'hui ». C'était une interrogation. Le projet en fait existait depuis un an parce que à ce moment-là, il y a eu en Bosnie toute une agitation des menaces des chefs de l'entité serbe de Bosnie de faire dissidence. Et du coup, nous nous sommes dit que nous allions faire un projet de commémoration de ce qui s'était passé et qui a été percuté par la guerre en Ukraine. Où on peut dire qu'il y a beaucoup de parallèles.
On était très émus et choqués en fait de voir ces images en Ukraine.
Quelles sont les similitudes que vous constatez entre la guerre en Ukraine et celle des Balkans?
C'est un peu ce que la Russie fait aujourd'hui. Elle ne reconnaît pas l'identité ukrainienne et elle refuse de reconnaître les Ukrainiens en tant que peuple qui a droit aussi de décider de son sort et de ne pas être forcément un pion de Poutine. Et à l'époque, effectivement, en ex-Yougoslavie, Slobodan Milošević, qui était au pouvoir, a voulu, en fait, par la violence et par l'utilisation de l'armée fédérale yougoslave, anéantir toute volonté d'expression d'une identité quelconque. Et puis, la similitude, c'est aussi l'utilisation d'une force armée de manière très, très importante, pensant qu'en quelques semaines, Poutine pourrait envahir l'Ukraine et la contrôler totalement, et c'est ce que Milošević pensait faire également, alors en Croatie, mais en Bosnie aussi, ou même au Kosovo. L'idée, c'était d'utiliser la violence militaire à outrance, d'utiliser des chiens de guerre. Donc là, je fais le parallèle avec Wagner. Donc il y avait plusieurs entités paramilitaires qui étaient utilisées pour semer le désordre, la mort.
La terreur
et pour en fait diviser les gens. Je rappelle qu'à l'époque de l'ex-Yougoslavie, la Russie soutenait pleinement et fortement le régime de Milošević. Donc il y a quand même des liens assez forts.
Justement, hier à Belgrade, à l'occasion d'une rencontre avec un conseiller à la présidence de la République tchétchène, le président serbe Aleksandar Vučić a déclaré que les relations fraternelles de son pays avec la Russie ne peuvent être détruites par aucune pression. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration?
Effectivement, la Serbie est un peu partagée entre la volonté de se rapprocher de l'Union européenne et le souhait de rester attachée à la Russie. Alors, effectivement, il y a des liens culturels forts, logiques et normaux. Par contre, le lien politique, je ne suis pas sûr que ça soit toujours bénéfique, si vous voulez, à la Serbie de se rapprocher d'un homme, d'un régime qui sème le désordre, le chaos, la guerre.
C'est pour cela aussi que les conflits en Bosnie a été si sanglant.
Absolument. En fait, que l'armée fédérale yougoslave a distribué massivement les armes aux populations serbes. Et donc, vous avez des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec des armes de guerre et qui se sont sentis investis quasiment d'une mission importante et malheureusement n'ont pas hésité à les utiliser. Et ça a été destructeur parce qu'effectivement, on a utilisé le mensonge. Donc, lorsqu'il y avait un massacre à Sarajevo au marché, les Serbes disaient tout de suite, nous, on n'a rien fait, c'est les Bosniens qui sont tirés sur eux-mêmes. C'est ce que dit aujourd'hui la Russie pour l'Ukraine. Donc le mensonge, c'est la vérité, c'est le mensonge. Et donc c'était il y a 30 ans, mais c'est toujours le cas, si vous voulez, dans le discours des ultranationalistes, disons serbes ou la Russie.
Pourtant, à cette époque-là, les casques bleus étaient présents. Alors que maintenant, pour le moment, il n'y a pas une intervention directe de la communauté internationale.
Et à l'époque, effectivement, il y avait une intervention des casques bleus, mais on ne peut pas dire qu'ils aient fait grand-chose. Si on prend l'exemple du génocide de Srebrenica, il y avait 500 soldats néerlandais qui ont laissé les fascistes serbes exécuter des adolescents de 12, 13, 14, 15 ans sous leurs yeux. Donc, si vous voulez, on a envoyé des casques bleus. Et je pense pas, si vous voulez, que ça a aidé la Bosnie à instaurer la paix. Aujourd'hui, c'est pas possible d'envoyer les casques bleus en Ukraine pour une raison très simple. C'est que la Russie est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Si vous n'avez pas l'accord du Conseil de sécurité, vous pouvez en rien faire, entre guillemets. Donc on a fait un autre choix qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'envoyer les armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre. En fait, c'est ce que nous on demandait à l'époque en Bosnie. On demandait à ce qu'on puisse acheter des armes et nous défendre. Or, le Conseil de sécurité de l'époque avait mis un embargo sur l'importation des armes dans toute l'ex-Yougoslavie, mais ceux qui étaient le plus pénalisés, c'est la Bosnie-Herzégovine et l'armée de Bosnie.
Edine, comment vous êtes arrivé en France des Bosnies ?
J'ai été évacué par une équipe de médecins du monde de l'hôpital de Sarajevo, de la pédiatrie, en novembre 92. Donc j'ai été blessé au bout de 5 mois de guerre. J'ai passé 3 mois à l'hôpital. J'ai une gangrène qui est montée quasiment dans mon estomac. Et en fait, je rappelle que la ville était assiégée, il n'y avait pas de médicaments. J'ai été opéré 12 fois, dont une fois sans anesthésie, parce que le médecin n'avait pas de place dans les salles d'opération pour m'opérer, entre guillemets, normalement.
Quels sont vos souvenirs de Sarajevo à cette époque-là ?
Sarajevo, c'est 350 obus tombés en moyenne par jour pendant 3 ans et demi. Donc c'est un déluge de feu inimaginable et inexplicable, si vous voulez. Il y avait à peu près 1200 chars et mortiers autour de la ville. Donc c'était un camp de concentration, ou en tout cas, on pourrait l'appeler comme ça, à ciel ouvert, où il y avait 300 000 personnes et on tirait avec des snipers, avec des mortiers. Les gens étaient tués alors qu'ils attendaient pour récupérer l'aide humanitaire à des endroits bien précis. Ils étaient tués parce qu'ils faisaient la queue pour récupérer de l'eau aux rares endroits où il y avait des sources d'eau, dont Sarajevo. On passait des jours et des jours dans des caves humides, 30 personnes entassées les uns sur les autres parce que c'était la cave considérée la mieux.
Pas
d'électricité, pas d'eau en fait. On pensait que la capitale serait épargnée même si... Et en fait, on s'est trompé, on a été très naïfs.
Êtes-vous jamais retourné à Sarajevo ?
Si, j'y vais tous les ans.
À quoi ressemble Sarajevo aujourd'hui ?
Écoutez, Sarajevo s'est beaucoup reconstruit. Il y a quelques traces de guerre, mais disons que c'est vrai qu'en tant que rescapé d'un massacre, c'est difficile d'imaginer des endroits où les gens ont péri, où il y a eu beaucoup de morts. Et en fait, aujourd'hui, ce sont des endroits calmes.
On voit quand même l'immensité des cimetières.
Absolument, oui.
Et puis tout le pays est quand même figé par les accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre et qui ont créé des institutions de type ethnique qui ne permettent pas de résoudre le problème et surtout de se développer. C'est un pays quand même, on peut le dire, qui stagne au niveau
Absolument.
Économique et au niveau même politique. Même si dans les dernières élections ont montré qu'il pouvait y avoir un espoir, notamment de la part des Bosniaques qui ont voté pour des listes citoyennes, qui se sont regroupés en une opposition au nationalisme.
Anne-Marie, d'où vient votre attachement pour ces pays et pour ces conflits ?
J'étais alertée par des réseaux féministes, en fait, sur ce qui se passait d'abord en Croatie. Et des femmes qui avaient été assiégées, et on est allées, et on a vu des choses, on a entendu des témoignages. On s'est aperçu qu'il y avait une méthode utilisée qui s'appelle le viol de guerre. Et nous sommes regroupées à Nantes. Nous avons formé un groupe d'abord, Alerte Citoyen, ça s'appelait, et tous les vendredis, Place du Commerce, qui a été rebaptisée Place Sarajevo. Nous défilions en soutenant la Bosnie-Herzégovine résistante et en demandant l'intervention de notre pays, des instances internationales. Et les gens ici se sentaient quand même assez loin, même s'ils avaient pu connaître la Yougoslavie comme un endroit de vacances, comme un pays qui était un socialisme modéré, entre guillemets. Celui de Tito, ça paraissait très loin aux citoyens lambda. Aujourd'hui, malgré tout, l'Ukraine apparaît un peu plus proche.
L'Ukraine nous semble plus proche, mais la Croatie l'est pour de vrai, parce qu'il y a quelques jours, le 10 novembre 2022, le Parlement européen a voté en faveur de l'élargissement de l'area Schengen, avec la suppression des contrôles aux frontières intérieures de la Croatie, déjà membre de l'Union européenne depuis 2013. Pour finaliser l'acte, il ne faudra qu'attendre l'approbation unanime du Conseil d'Europe avant la fin de l'année. Les conditions imposées sont l'évaluation continue des droits fondamentaux et de la situation humanitaire au niveau des frontières extérieures. Dans quel état se trouvent les confins entre Croatie, Serbie et Bosnie, à votre avis, en ces moments ?
La Croatie et la Serbie considèrent que les populations, les Bosniens catholiques, c'est-à-dire les Croates de Bosnie, où les Bosniens orthodoxes, c'est-à-dire les Serbes de Bosnie, appartiennent en fait respectivement à la Croatie et à la Serbie, passent par tout un discours, ou en tout cas une volonté de bloquer le fonctionnement de la Bosnie-Herzégovine et de ses institutions étatiques.
Merci.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.